إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. ونشرع اليوم في قراءة باب شروط النكاح. باب شروط النكاح. طيب، فقال أهل العلم إن الشرط لغة هو العلامة، أما شرعا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. طيب، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. دونك on passe au chapitre suivant, dans le chapitre de Nikah, du contrat de mariage, qui est le chapitre des conditions du contrat de mariage. Taïeb. Donc, shurut, qui est le pluriel de shart, on va traduire par condition. Dans la langue arabe, c'est un signe. D'accord ? C'est une indication, un signe. Ça, c'est hein, linguistiquement. Dans la religion, dans la terminologie religieuse, la condition, c'est quoi ? C'est ce dont l'absence implique l'absence. Hein ? Ceux dont l'absence, yani une chose dont l'absence implique forcément l'absence de l'action. D'accord ? Mais sa présence n'implique pas forcément la présence de l'action, ni même son absence, yani de par elle-même. Bon, en français, c'est un peu confus, hein, mais en arabe c'est clair. Huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud wa la al-adam li dhatihi. Peut-être qu'avec un exemple vous allez comprendre yani plus clairement. Exemple, parmi les conditions de la prière, on a at-tahara, la purification. Donc la purification, le fait que la personne soit en état de purification pour que sa prière soit valide,
Hein? C'est une condition. Cette purification, c'est une condition. Et comme on a dit dans la définition, s'il n'y a pas de purification, il n'y a pas de validité de prière. D'accord? La prière n'est pas valide. En revanche, si elle est présente, cette condition, la personne, elle est en état de purification. Cet état de purification n'implique pas forcément la validité de l'acte, de la prière, ni même son invalidité. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait un obstacle qui va venir invalider la prière, tel que, par exemple, le fait que la personne n'ait pas prié dans sa période prescrite, ou que la personne n'ait pas rempli une condition autre, telle que le fait de cacher sa aura. C'est parti à cacher dans la prière. Taïeb. Donc le fait que la personne soit en état de purification n'implique pas forcément la validité ni l'invalidité de la prière. Par contre, le fait qu'elle ne soit pas en état de purification, cela va forcément entraîner l'invalidité de la prière. Donc ça, c'est la définition même de, ou plutôt l'explication exemplifiée, yani, de cette définition qui est Ash-shartu, yani fi shar' dans la législation religieuse, huwa ma yalzamu min adamihi al-adam, ce dont l'absence entraîne forcément l'absence de l'action, wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala al-adamu li-dhatihi, mais dont la présence n'implique pas forcément la présence ou l'absence de par sa simple présence. طيب والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بد فيه من رضا الزوجين هذا هو الشرط الأول لأن العقد لهما فاعتبر رضاهما به كالبيع ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن والأيم هي الثيب وقد فسرته رواية أخرى ومعنى حتى تستأمر أي يطلب أمرها فلا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك والأمر يكون بالنطق فتقول مثلا زوجوني منه والمراد بالبكر البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن وقوله حتى تستأذن أي يطلب منها الإذن وقوله أن تسكت يعني لا حاجة إلى إذن صريح منها بل يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها وأخذ كثير من العلماء رحمهم الله من هذا الحديث عدم جواز إجبار المرأة على النكاح سواء أكانت بكرا أو ثيبا ويؤيده حديث خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه أبو داود وابن ماجة وقال ابن حجر في تلخيص رجاله ثقات وأعل بالإرسال. Donc il commence l'auteur, رحمه الله تعالى, en disant, il est impératif pour que le contrat de mariage soit valide, d'avoir le consentement des deux personnes. Le consentement, hein, des mariés. Donc ça, c'est la première condition. Car le contrat, il est fait pour eux. D'accord? Donc forcément, on prend en considération leur consentement. Le consentement des deux personnes. D'accord, qui sont concernés par ce contrat. De la même façon qu'on prend en compte le consentement du vendeur et du client dans le contrat de vente. Et cela donc en vertu du hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit donc, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, La tunkahul ayyim. Donc, l'ayyim, c'est la femme qui a déjà été mariée. D'accord? Donc, il dit, on ne marie pas l'ayyim tant que on ne lui a pas demandé, yani, tout, l'amr, son accord ou son ordre. D'accord? Et on ne marie pas l'bikr. L'bikr, c'est la fille qui est vierge. D'accord? Qui est vierge. Hatta tusta'than. Jusqu'à ce qu'on lui demande, yani, son autorisation. D'accord? Donc, l'ayyim, comme on a dit encore une fois, c'est l'thayyib. C'est la femme qui a déjà été mariée. D'accord? Et d'autres versions sont venues détailler le sens de justement ce terme el-ayyim qui désigne donc la femme qui a déjà été mariée. Wa ma'na hatta tusta'mar. Donc le sens de jusqu'à ce que on lui demande son ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on lui demande yani, na'am, son aval, yani. Taïeb. Donc on ne peut contracter un contrat de mariage à sa place ou pour elle, sauf si bien sûr elle a donné son accord hein, et son autorisation en cela. Et comment elle va donner son accord? Eh bien, en prononçant yani, une parole, hein, benotre, voyez, en prononçant une phrase, comme par exemple le fait qu'elle dise Zawijuni minhu, mariez-moi avec cet homme. Taïeb. Wal-muradu bil-bikr. Donc, ce qui est visé par le terme el-bikr dans le hadith, bien sûr, c'est donc la femme, la fille vierge, mais c'est aussi el-baliga, la fille qui est pubère. D'accord? Pourquoi? Parce que la fille qui n'est pas pubère, on ne peut lui demander son autorisation. Parce qu'elle ne, elle n'est pas dans, en, elle n'a pas les aptitudes ou la capacité à ce qu'on lui demande son autorisation. Donc c'est bien sûr la fille vierge pubère. D'accord? Hatta tusta'zan. Donc tant que on ne lui a pas demandé l'autorisation et qu'elle ne l'a pas accordée. Taïeb. Après donc lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment cette fille vierge va exprimer son autorisation, il dit entaskut, le fait qu'elle garde le silence, tout simplement. D'accord? Donc on n'a pas besoin qu'elle exprime son accord verbalement comme pour la femme qui a déjà été mariée. D'accord? Donc la fille vierge, on se suffit de son silence. Donc si on lui dit, on lui demande l'autorisation de la marier avec tel ou tel, et le fait qu'elle garde le silence, cela est considéré comme étant un accord et un consentement. Pourquoi? Parce qu'en général, ces filles-là, yani, ont beaucoup de pudeur. Taïeb. Non. Beaucoup de savants, rahimahumallah, ont tiré de ce hadith le fait que il n'est pas permis de contraindre la femme à se marier. Hein? Il n'est pas permis de forcer la fille à se marier, qu'elle soit vierge ou pas. Taïeb, jamais mariée ou déjà mariée, peu importe. Il vient renforcer également cet avis, un autre hadith. Celui de Khamsa binti Khidham, radiallahu anha, qui a dit que son père l'a mariée alors qu'elle était donc thayyib, donc elle avait déjà été mariée, et son père l'a mariée, fakarihat dhalik, et elle était contre yani, ce mariage. D'accord? Elle ne voulait pas se marier. Donc elle s'est rendue auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui a donc dit que ce mariage n'était pas valide. Faradda nikahaha. Donc il lui a dit que le contrat de ce mariage n'était pas valide, le hadith rapporté par Al-Bukhari. Également un hadith selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit qu'une fille vierge s'est rendue auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, tayyib, et elle lui a dit que son père l'avait mariée, yani, alors qu'elle ne voulait pas. Donc elle était contrainte, yani, au mariage. Et le prophète, yani, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le choix. Donc il lui a dit, si tu veux yani, rester, te marier Yani, alhamdoulillah, tu peux. Si tu ne veux pas, yani, le mariage est annulé ou n'est pas valide. D'accord? Le mariage n'est pas valide, comme on a vu dans le hadith précédent. Donc, ce hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, ainsi que Ibn Hajar, dans At-Talkhis, qui a dit que ces transmetteurs dans ce hadith-là sont des transmetteurs fiables de hadith. Wallahu ta'ala alam, même si certains ont dit que ce hadith était mursal. Wallahu ta'ala alam. Idan, قال, ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. فالصغيرة هي التي لم تبلغ. فالإجبار للأب فقط دون غيره من الأولياء. فإذا رأى مصلحة في إجبارها على النكاح من كفؤ فله ذلك. والمصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأمصار. فحال السلم غير حال الحرب، وحال الرغد غير حال الجوع والحاجة. طيب، فقال ابن قدامة في المغني: أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ. والدليل على صحة التزويج الصغيرة قول الله تعالى: واللائي لم يحض، فجعل للائي لم يحضن عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق واقع في نكاح أو فسخ، ولا إذن لها فيعتبر لأنها صغيرة. Donc, il poursuit l'auteur, rahimahullah ta'ala, en disant, donc il faut obligatoirement, on a dit, première condition, le consentement des deux mariés, sauf As-Saghira. Donc As-Saghira, c'est la fille qui n'est pas encore pubère. D'accord? As-Saghira, c'est la fille qui n'est pas encore pubère. Eh bien, son père peut, yani, la marier sans son consentement ou sans son autorisation. Taïeb. Donc, il peut la contraindre à se marier. Également, là, l'esclave, donc la femme esclave, taïeb, son maître peut également la contraindre à se marier. Jayed. Donc, à Sarira, la fille, la jeune fille, pubère, pardon, qui n'est pas encore pubère, hein, à Sarira, celle qui n'est pas encore pubère, donc son père, donc seulement son père et personne d'autre, parmi les tuteurs qu'elle pourrait avoir, seulement son père uniquement a ce droit-là. D'accord? Bien sûr, il ne le fait pas, yani, pour ses intérêts personnels ou l'intérêt de qui que ce soit. Il le fait s'il voit un intérêt en cela pour sa fille. D'accord? Donc s'il voit qu'il y a un intérêt à marier sa fille alors qu'elle n'est pas encore pubère, taïeb, à telle personne, s'il voit qu'il y a un intérêt pour elle qui est flagrant, qui est évident, hein, de la marier avec un homme ou un garçon qui est pour elle tout à fait approprié, d'accord, qui est comme elle, bien sûr, religieusement, qui est comme elle au niveau du comportement, de la chasteté, par exemple, etc. D'accord? Eh bien, il peut la contraindre à se marier. D'accord? Al-Maslaha, et donc l'intérêt pour cette fille, les intérêts vont différer selon les époques et les endroits, d'accord? Donc cela va dépendre des époques, cela va dépendre des endroits dans lesquels ils vivent. Exemple, un pays qui est dans un état de paix n'est pas comme un pays qui est en état de guerre, par exemple. Donc les masalih, les intérêts seront différents par rapport aux endroits, par rapport aux lieux, et également par rapport à la situation économique. Donc, la famille qui est en état, la situation de bien-être, de richesse, n'est pas comme celle qui est en état de pauvreté, de famine et de besoin. Ibn Qudama, rahimahullah, mais dans le Mughni, il dit: quant à la fille vierge, as-sagira, celle qui n'est pas donc pubère, l'impubère, il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Yani, son père a le droit, s'il voit un intérêt évident et manifeste pour qu'elle se marie, il peut la marier, hein, sans son consentement. Il dit, Ibn al-Munzir, que tous les gens de science dont on a appris sont unanimes sur le fait que le père qui marie sa fille vierge impubère, cela est permis s'il la marie avec quelqu'un qui est approprié et qui lui convient. D'accord? Au niveau de, encore une fois, de la religion et du comportement. Wallahu ta'ala alam. Donc la preuve sur l'authenticité du fait de marier la fille impubère, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate At-Talaq, où il dit Wallahi lam yahid. Et celles qui n'ont pas eu de menstru. Et celles qui n'ont pas eu de menstru. D'accord? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a évoqué, ou il a établi pour celles qui n'ont pas eu encore leur menstru, une période de viduité qui est de 3 mois. D'accord? Une période de viduité qui est de 3 mois. Et il est tout à fait donc logique et clair qu'il n'y a pas de période de viduité, si ce n'est après un divorce. D'accord? Un divorce donc, qui a été prononcé forcément après un mariage qui a été conclu, ou après l'annulation d'un contrat de mariage qui a été conclu. Donc, vu qu'il y a une période de viduité, ça veut dire qu'auparavant, il y avait un contrat de mariage qui a été conclu. Et donc, cela nous fait comprendre que le contrat de mariage entre un garçon et une fille qui n'est pas pubère est valide. D'accord? Et qu'il n'y a pas d'autorisation obligatoire de sa part, et que son autorisation, yani, dans tous les cas, n'est pas prise en compte car elle est impubère et elle n'est pas encore en état justement d'autoriser quoi que ce soit, hein, etc. وعن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ولفظ له ومعلوم أنها لم تكن في تلك السن ممن يعتبر إثمها وكذلك للسيد إجبار أمته على النكاح قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها. Donc Aïcha رضي الله عنها, hein, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé alors que j'avais 6 ans. Donc le contrat de mariage avec Aïcha a été conclu alors qu'elle avait 6 ans, elle n'était pas encore pubère. Vous voyez? Puis elle dit, et il a consommé le mariage avec moi alors que j'avais 9 ans, quand j'avais 9 ans. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la version yani, c'est la version de Muslim. Et il est connu donc que lorsque le contrat de mariage a été conclu entre le prophète alayhi salatu wassalam et Aïcha radhiyallahu anha, donc à 6 ans, elle n'était pas en état de donner son accord, car elle n'avait pas un âge dans lequel elle pouvait donc donner son accord. Et on a dit également, le maître qui possède donc une esclave, femme, eh bien il peut la contraindre à se marier. Comme l'a dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit, nous ne connaissons à ce sujet aucune divergence, et cela car le fait de tirer profit de cette femme-là, hein, appartient à son maître. Et donc le mariage, un nikah, c'est un contrat pour justement tirer profit de cette personne-là. Et donc ça ressemble un peu au contrat de l'ijara, de ce qu'on appelle l'ijara dans le chapitre yani, des transactions. Et c'est pour cela donc que le maître, il possède également le fait de pouvoir tirer profit, de pouvoir tirer yani, bénéfice ou jouissance de cette personne. Taïeb, alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بد فيه من الولي فالولي هو الشرط الثاني الولي هو الشرط الثاني. طيب نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة. رواه الخمسة. أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث في اختلاف، ثم ذكر الترمذي الاختلاف في وصله وإرساله، ورجح الرواية الموصولة، وأطال الحاكم تخريجه، ثم قال فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحته بما فيه غنية لمن تأمله. maintenant la deuxième condition. Il dit, il est obligatoire pour que le contrat de mariage soit valide qu'il y ait un wali, qu'il y ait le tuteur de la femme, notamment par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi wali, pas de mariage sans tuteur, yani pas de mariage valide sans tuteur. Donc le hadith il est authentique, il est rapporté par les cinq. Quand on dit les cinq, notamment chez Ibn Hajar, quand il dit les cinq, il parle de l'imam Ahmed, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai ou Ibn Majah. طيب. Donc le hadith rapporté par les cinq, na'am. Bon, les savants, ils ont divergé sur ce hadith. Certains ont dit qu'il est mursal, d'autres ont dit qu'il est mausoul, yani. D'accord. Na'am. Mais comme il a dit l'imam Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, il a dit que nous, on a certes argumenté avec les différentes versions de ce hadith qui sont authentiques, avec les paroles aussi des gens de science, sur sa validité. Et alhamdoulilah, donc celui qui étudie ce hadith, il verra qu'il est tout à fait authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Voyez. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وبغير إذن وليها فنكاحها باطل ويشترط في الولي الشروط الآتية الأول أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. نعم. Donc, on a d'autres preuves. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit toute femme qui a été mariée sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est invalide. D'accord? C'est clair. Toute femme mariée sans l'autorisation de son tuteur, son mariage est invalide. Maintenant, on va mentionner les conditions du tuteur. D'ailleurs, pour que justement la personne ait le droit de prendre en charge le tutorat, hein, dans le contrat de mariage. La première condition, qu'il soit mukallaf, qu'il soit responsable religieusement. Autrement dit, qu'il soit pubère et doué de raison. D'accord? Qu'il soit pubère et doué de raison. D'ailleurs, car celui qui n'est pas responsable religieusement, eh bien, il a besoin, au contraire, lui-même, d'un wali, d'un tuteur. Donc, il ne peut forcément, en aucun cas, être le tuteur de quelqu'un d'autre. Thani ayakuna zakaran. Li'an al-ma'a la wilayata laha ala nafsiha fa fi ghayriha awla. Deuxième condition. Que le tuteur soit un homme, parce que la femme ne peut obtenir le droit du tutorat pour elle-même. D'accord? Elle ne peut être son propre tuteur. Comment peut-elle donc être le tuteur de quelqu'un d'autre? Donc, il faut qu'il soit un homme. Et thalith, an yakuna rashidan bi an ya'rifa al-kuf'a wa masalih al-nikah. Troisièmement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit rachid, qui soit doué de clairvoyance. D'accord? Quelqu'un qui est clairvoyant et qui comprend les choses et qu'il sait, qu'il saura choisir l'homme qui correspondra à la femme, el-kuf. D'accord? Et qui fait cela en ayant connaissance des intérêts du mariage pour la femme. D'accord? Donc il faut qu'il soit Rachid, quelqu'un de de droit, de raisonnable, doué d'une raison saine et qui connaît ce qui est bon ou pas pour la fille donc qu'il va représenter dans le contrat de mariage et qui saura choisir un homme qui sera convenable et qui conviendra à la situation de cette femme. Rabi'an an yakuna al-wali wa muwalliyatahu aw muwalliyatuhu ala din wahid fala walayata li kafirin ala muslima. Quatrième condition et dernière pour que la personne ait le droit d'être un tuteur dans le mariage, il faut que le tuteur et la femme donc qu'il représente soient sur une même religion. Soit sur une même religion. Ça veut dire que le mécréant ne peut en aucun cas être le tuteur d'une musulmane. Naam. Alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا فيقدم الأب على غيره لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة على ابنتي ثم الجد كذلك. Maintenant on va parler de ceux qui ont la priorité justement dans le tutorat. Donc la personne qui est la plus prioritaire dans le fait d'être le tuteur et de pouvoir marier la femme, al-hurra, la femme libre, c'est son père. D'accord? C'est son père. Wa in ala. C'est son père et yani, ceux qui sont au-dessus de son père, yani, au-dessus, c'est-à-dire le père de son père, l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. Jayed. Donc, on met, bien sûr, le droit revient en priorité au père de la femme, d'accord, qui aura donc la priorité sur tous les autres parmi ses proches, car c'est celui qui est qui verra le mieux les intérêts pour sa fille et qui va observer le mieux ce qui est bien ou pas pour sa fille, et c'est celui qui a le plus de compassion pour elle. Et après lui donc il y aura le grand-père de la fille, et après lui, son arrière-grand-père, si ils sont encore vivants. Jayid? Naam. Wa yali al-ab, naam, yali al-ab al-wasi fi al-nikah. Wa huwa alladhi awsahu al-ab yaqumu maqamahu fayakunu huwa al-thani. Donc on a dit le père, c'est le premier, d'accord? Et aussi, donc, si le père délègue son tutorat à quelqu'un, donc cette personne là, qu'on peut appeler le substitut ou celui qui a été délégué par son père, deviendra la deuxième personne la plus en droit donc d'être ou de représenter cette fille pour le contrat de mariage. Jayid. Thumma yaqul thumma ibnuha wa in nazala ibnuha min sulbiha ثم ابنه وإن نزل لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. Puis il dit donc après le père, son fils, yani le fils de la fille, si elle a un fils. Et après lui donc son petit-fils, son arrière-petit-fils et ainsi de suite. D'accord? Donc son fils, yani son fils biologique. D'accord? Et ensuite son petit-fils et ainsi de suite comme on a dit. Et cela dans, en vertu du hadith de Umm Salama radiyallahu anha, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait demandé en mariage, et elle a dit, ô messager d'Allah, certes, il n'y a personne parmi yani, mes représentants ou mes proches qui soit présent. Et le prophète il lui a dit, il n'y a personne parmi tes proches de présent qui détesterait cela, ou qui déteste cela, ni personne qui est absent parmi tes proches ou tes tuteurs qui détestaient ça. Et il y avait donc le fils de Umm Salama qui était présent. Et elle a dit à son fils, qui s'appelait Omar, Ô Omar, lève-toi et marie le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, marie-moi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a marié donc sa mère, hein, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith rapporté par An-Nasa'i, authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim, rahimahumullah. طيب ثم يقول ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها القرابة فأقربهم أشفقهم فيقدم بعد الأب والابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنو الإخوة لغير أم وإن نزلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث قال ابن قدامة في المغني لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم يعني تقديم العصبة على غيرهم أما الترتيب بين العصبة ففي خلاف ولا ولاية لغير العصبة كالأخ لأم والخال وأبي الأم نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Puis dit donc, après le père, après le fils, on a ensuite donc les proches de la femme, du plus proche au moins proche au niveau de l'ordre. D'accord? Au niveau de l'ordre, on partira bien sûr du plus proche et on ira après donc de plus en plus éloigné de cette femme-là parmi ses asabat. Donc parmi les asabat. Les asabat, ça sera les gens du côté du père de la mariée, d'accord? Du côté du père de la mariée, d'accord? Et c'est ceux, donc, l'asabat, c'est ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont suivi les cours de l'héritage, ceux qui n'ont pas une part d'héritage déterminée dans la législation, mais qui héritent, hein? Qui héritent, donc, mais n'ont pas une part déterminée telle que le quart ou le sixième, ou le huitième, etc. Les parts donc qui sont déterminées par Allah tabaraka wa ta'ala dans l'héritage. Jayid? Non. Donc il dit ici, car le tutorat, il repose sur la compassion, sur le fait de réfléchir sur les intérêts de la femme. D'accord? Et donc ce qui, bien sûr, les personnes qui sont plus à même d'avoir de la compassion et de rechercher les intérêts pour la femme, ce sont les proches de la femme, ceux qui ont des liens de sang avec cette femme. D'accord? Naam. Donc ceux qui, plus la personne sera proche de la femme, et plus elle aura de la compassion pour elle, bien sûr. Donc comme on a dit, le père, le fils, donc après le fils, il y a qui? Il y a el-akh li abawain, donc le frère germain. Donc le frère, le fils de sa mère et de son père. Puis on a le frère, le demi-frère, du côté du père toujours, d'accord? Le demi-frère. Puis on a les enfants des frères, c'est-à-dire les enfants des frères germains et les enfants des demi-frères. Et ainsi de suite. Puis on a l'oncle. Puis on a le fils de son oncle. Et quand on dit l'oncle, attention, c'est el-am. C'est le frère du père. D'accord? C'est le frère du père, l'oncle paternel. D'accord? Puis on a le fils de cet oncle. Et puis du plus proche, hein, au moins proche. Parmi, on a dit encore une fois, les asabat, selon l'ordre que l'on a déjà étudié dans le chapitre de l'héritage. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah d'Al-Mughni, il dit, on ne connaît à ce sujet aucune divergence entre les gens de science, hein, qui est donc le fait de mettre en priorité l'asabat sur tous les autres. Quant à l'ordre entre l'asabat, il y a des divergences. L'ordre entre l'asabat, hein, il y a des divergences. Donc là, c'est un des avis. Taïeb, celui que l'on a mentionné, est un des avis. Donc il n'y a pas, il dit le cheikh, pas de tutorat possible pour ceux qui ne font pas partie des asabat, tels que le demi-frère du côté maternel. Donc son demi-frère, yani du côté de sa mère, il ne peut être son tuteur. Al-Khal non plus. Donc l'oncle maternel, le frère de sa mère, ne peut être tuteur. Abil-Oum, le père de la mère, donc son grand-père, mais du côté de la mère, ne peut être tuteur. Comme l'a mentionné textuellement l'imam Ahmadou, rahimahullahu ta'ala. طيب فقال أهل العلم الأقرب بعد ابن الابن الأخ شقيق فهو السادس فهو السادس والسابع الأخ لأب والثامن ابن الأخ الشقيق وإن نزل والتاسع ابن أخ لأب وإن نزل والعاشر العم الشقيق وإن علا والحادث عشر العم لأب وإن علا والثاني عشر ابن العم الشقيق وإن نزل والثالث عشر ابن العم لأب وإن نزل والرابع عشر المعتق والخامس عشر عصبة المعتق بالنفس والسادس عشر السلطان عند عدم من سبق. طيب نعم Donc, les savants ils disent, on a dit, en premier, on a qui? On a le père, d'accord? En deuxième, on a dit celui qui est mandaté par le père, Taïeb. En troisième, on a le fils, Naam. On n'a pas mentionné le grand-père, etc. Donc, on va dire. Le premier, le père. En deuxième, celui qui est mandaté par le père. Le grand-père. En troisième, le quatrième, le fils. Le cinquième, le fils du fils. D'accord? Vient en sixième, donc, le frère germain. El-Akh-Shaqiq. Le frère germain en sixième position. En septième position, on a le demi-frère côté paternel, toujours. Taïeb. En huitième position, on a le fils du frère germain, donc le neveu du frère, yani le neveu de la fille, mais du côté du frère germain. En neuvième position, on a le fils du demi-frère paternel, et ainsi de suite. En dixième position, on a l'oncle, donc le frère du père, le frère du père, qui ont le même père et la même mère. Et tu peux monter donc. En onzième position, on a l'oncle paternel, mais demi-frère, le demi-frère du père. D'accord? Et tu peux monter au-dessus. En douzième position, on a le fils de l'oncle germain, de l'oncle paternel germain, donc le cousin de la fille, mais qui est le fils de son oncle paternel germain. Et tu peux descendre en dessous également. En 13e position, le fils du demi-frère du père. D'accord? Le fils du demi-frère du père. Et tu peux descendre en dessous. En 14e position, on a le maître qui l'a affranchi. Donc, si elle était esclave avant et qu'elle a été affranchie par son maître, eh bien, son maître prendra son tutorat ici en 14e position. D'accord? Ou son ancien maître, celui qu'on appelle Al-Mu'tiq. En 15e position, on a Al-Asabat Il-Mu'tiq. Donc, Al-Asabat, les héritiers parmi les Asabat du maître qui l'a affranchi, Al-Mu'tiq, d'accord, bin-nafs, donc qui héritent de par eux-mêmes. Hein? Donc, ces termes-là, on les a vus dans le chapitre de l'héritage, on ne revient pas dessus, Inch'Allah. Et puis, enfin, en 16e position, on a le gouverneur, le juge ou le gouverneur, un sultan, lorsque, bien sûr, tous ceux qu'on a cités là précédemment ne sont pas présents ou ne, hein, eh bien, viendra en dernière position donc le gouverneur ou le juge qui pourra donc la marier. Naam. إذن هذا فيه دليل على أنه لا يزوجها من ليس من العصبة فلا يزوجها الأخ لأم ولا الجد لأم ولا الخال ونحو ذلك. Donc on a dit encore une fois, on le répète, c'est une preuve que ne peuvent la marier ceux qui ne font pas partie des asabat de la fille. Donc ne peuvent la marier ni le demi-frère côté maternel, ni le grand-père côté maternel, ni le frère de la mère, ni l'oncle maternel, et ainsi de suite. Naam. إذن نكتفي بهذا إن شاء الله. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine dans ce chapitre toujours qui est les conditions du contrat de mariage. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.